RSE Time, avec les locataires, une émission environnement sur Radio G.
Salut à tous nos éditeurs, aujourd'hui c'est Marius au micro sur Radio G, je suis avec Muriel.
Salut.
Gaspard.
Salut les gars, ça va bien?
Et Titouan.
Hey, salut.
Nous sommes le groupe des locataires du lycée Angèle Lefrène. Nous sommes tous élèves en STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Aujourd'hui, le thème il va porter sur l'agriculture paysanne. On va discuter, débattre, vous faire écouter aussi un micro-trottoir et aussi vous faire écouter une musique sur ce thème. N'hésitez pas à participer chez vous. Je laisse le micro à Muriel.
Alors aujourd'hui, dans cette chronique, on va se demander qu'est-ce que c'est l'agriculture paysanne. Alors, on entend souvent parler de l'agriculture biologique, mode de production agricole qui se veut plus respectueuse de la biodiversité et des ressources naturelles, en cessant l'utilisation des pesticides et d'intrants, mais qu'en est-il de l'agriculture paysanne? Tout d'abord, l'agriculture paysanne, selon l'ARDER, l'Association régionale pour le développement de l'emploi agricole et rural, permet à un maximum de paysans et de paysannes répartis sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant sur une exploitation à taille humaine une alimentation saine et de qualité accessible à tous et à toutes, sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. Vous l'aurez compris, l'agriculture paysanne ne s'engage pas seulement à produire des denrées alimentaires de qualité et respectueuses de l'environnement, mais va plus loin que ça et repose sur une charte et 10 principes réunis en 6 thèmes. Il y a bien évidemment le travail avec la nature, en maintenant la fertilité des sols sans intrants de synthèse, comme les pesticides et les engrais, et en préférant la permaculture par exemple. L'autonomie, qui encourage les agriculteurs et les agricultrices à rester maîtres des décisions et à limiter leur dépendance aux achats de semences, d'aliments pour les animaux, etc., et à produire eux-mêmes ou en valorisant des ressources locales. Nous avons également la transmissibilité, qui permet d'accompagner les paysans pour la transmission de leur ferme aux nouvelles générations en intégrant son temps de travail avec le coût de production pour assurer la viabilité de la ferme ou en limitant les agrandissements et les investissements qui seraient trop lourds à la reprise. L'agriculture paysanne garantit aussi le développement local en encourageant les paysans à entrer dans un réseau local de partage agricole comme une AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, ou en ouvrant les portes des fermes au public. Elle veut permettre aux agriculteurs paysans de dégager un revenu suffisant pour une exploitation à taille humaine et mieux valoriser leurs produits. Et même si l'agriculture paysanne n'est pas à proprement parler un label, mais plutôt un concept politique, elle est gage de qualité et de transparence des produits en respectant le cycle naturel et le bien-être des animaux, et en choisissant un label qui correspond aux choix et aux attentes des paysans, tels que le label Nature et Progrès ou encore l'agriculture biologique. L'agriculture paysanne est donc un ensemble de valeurs portées par la Confédération paysanne, syndicat agricole, qui regroupe les paysans et les paysannes face à des objectifs environnementaux, économiques et sociaux. Elle a pour but d'être un levier de généralisation de pratiques agricoles plus vertueuses, tout en étant rémunératrice. L'agriculture paysanne est donc un outil d'interpellation, de pouvoir public et d'orientation du débat pour que la filière devienne plus soutenable, aussi bien sur le plan social que écologique.
Bah, merci beaucoup pour cette chronique, Muriel. Ensuite, là, on va vous faire écouter une interview. J'ai interviewé un jeune agriculteur qui s'appelle Clément Lemaître. Il vient de s'installer et racheter la ferme de mon père. Et il fait une agriculture bio et paysanne.
Bon bah bonjour Clément.
Bonjour.
Est-ce que déjà tu es d'accord pour qu'on enregistre ta voix et que ceci soit diffusé sur Radio G?
Oui, pas de souci.
Alors première question, pourquoi tu t'es orienté vers l'agriculture et pourquoi as-tu choisi l'agriculture paysanne pour en faire ton métier?
Moi je ne suis pas, j'étais pas dans l'agriculture à la base. Je suis revenu quand j'avais 20 ans. Et puis, j'ai de la famille qui est dans le milieu agricole, donc c'est comme ça que je me suis plutôt orienté dans l'agriculture. Mais à la base, j'étais pas en agriculture paysanne, parce que Dans ma famille, c'est pas ce type d'agriculture. Et pourquoi cette agriculture-là ? Parce que pour moi, c'est celle qui reflète celle où on a un impact meilleur sur l'environnement, puisqu'on se dirige vers une production d'herbe à la base. On mise tout sur l'herbe en agriculture paysanne, donc c'est la production où c'est le plus simple d'agir sur l'environnement.
Ok. Quelle est ta production agricole et où es-tu installé ?
Donc je fais des vaches laitières. Je fais aussi des plantes médicinales, c'est la matricaire, et voilà. Et donc je suis installée à Chanzeau, à cheval sur les Mauges et le Layon.
Ok, merci. Et pourquoi tu t'es engagée à la Confédération paysanne et quelles sont les valeurs que tu portes avec elle ?
Pourquoi je me suis engagée ? Je suis tombée dedans avec mes cédants. Et puis surtout, bah, c'est le syndicat qui reflète mes valeurs. Hein, donc une agriculture qui est autonome, qui se veut très peu consommatrice d'intrants. Et aussi sur les intrants phytosanitaires, où là, moi, je suis en agriculture biologique et je pense que l'agriculture paysanne et l'agriculture biologique, c'est très lié parce que... En agriculture paysanne, on se veut de très peu utiliser ou pas du tout d'intrants phytosanitaires. Donc, c'est une des valeurs qui est assez importante pour moi.
Ok, merci. Et la dernière question, c'est quels sont les leviers d'action à mettre en place dans la ferme pour faire face au changement climatique ?
Bah déjà, faire manger de l'herbe aux vaches. Premier levier. Des prairies diversifiées qui durent dans le temps. Voilà, des prairies qu'on va faire vieillir, qui vont stocker du carbone, implanter des haies aussi pour le stockage de carbone. Bon, ça c'est les deux gros leviers, on va dire. Et puis ce qui nous amène à une autonomie totale de la ferme au niveau alimentaire, mais aussi au niveau de tout ce qui tourne autour d'une ferme.
Ok, bah, merci d'avoir répondu aux questions.
Bon, bah voilà, merci d'avoir écouté l'interview. Est-ce que vous voulez revenir sur cette interview ?
Bah oui, moi je voulais commencer par repréciser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, ceux qui reprennent la ferme de leurs parents ou des fermes familiales, ils ont une pression importante pour rester dans le système qui était pratiqué. Et c'est Clément, il a réussi à se tourner vers un autre système, le système de l'agriculture paysanne. Mais faut savoir qu'il y a des fermes qui ne changent pas de mode de fonctionnement parce qu'il y a une pression trop importante de la famille. Donc ça, c'est aussi ce qui fait qu'il y a beaucoup de fermes qui ne changent pas en France.
Ouais, c'est vrai que du coup, les fermes qui sont reprises par les enfants des parents, c'est plus du coup des modèles conventionnels, même s'il y a aussi des modèles bio et paysans. Et du coup, mais je pense que Clément, il fait des choses trop bien en reprenant une ferme comme ça et en restant dans l'agriculture paysanne, même si c'est pas le modèle majoritaire. Et c'est comme ça qu'on va rendre le métier attractif et protéger l'environnement aussi, quoi.
Il a dit que l'un des piliers de l'agriculture paysanne, c'était la non-utilisation, en tout cas la limitation de produits phytosanitaires. Et il a parlé ensuite des haies, mais en fait les haies, plus que de capter le carbone, elles permettent la limitation de ces produits phytosanitaires, puisque les haies sont une source d'habitat pour les auxiliaires. Donc c'est des insectes qui vont attaquer ou en tout cas limiter les ravageurs, les bioagresseurs. Et donc du coup ça limite beaucoup cette utilisation.
Ok, mais même il n'y a pas que ça sur les haies. Les haies, ça limite l'érosion. Par exemple, les racines des arbres qui sont dans les haies, ça permet à l'eau de descendre dans les nappes phréatiques et ça empêche l'eau de ruisseler sur les champs et de créer de l'érosion. Bah, comme tu dis, au-delà que ce soit des auxiliaires, la biodiversité, ça la protège juste en tant que biodiversité. Elle est là, on la préserve. Donc la haie, elle a plusieurs avantages. Et elles sont aussi soutenues par la Confédération Paysanne, le syndicat dont Clément parlait. La conf soutient des replantations de haies. Et puis la conf défend aussi la limitation. Elle essaye de montrer aux paysans que c'est possible de se séparer un peu des énergies fossiles, parce que faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a énormément de fermes sont hyper dépendantes des énergies fossiles, puis des produits phytosanitaires, des engrais chimiques. Les fermes en France, elles sont hyper dépendantes, et la conf, elle veut essayer de limiter cette dépendance.
Et je pense qu'il y a d'autres leviers d'action aussi que Clément il a pas parlé, comme notamment agir sur les politiques agricoles, comme par exemple pour assurer un revenu à tous les paysans et paysannes qui puissent bien vivre de leur métier, et en même temps assurer la protection de l'environnement et jouer aussi sur le revenu en protégeant cet environnement.
Ouais, la conf, elle est sur ce point-là. Elle est vraiment dans la lutte pour la biodiversité, pour les fermes, mais vraiment aussi pour les travailleurs. Elle se bat pour les droits des travailleurs du milieu agricole.
Et aussi, comme levier d'action, je pense qu'il faudrait vraiment sécuriser le foncier, donc les terres, parce qu'il y a beaucoup de fermes qui partent à l'agrandissement, comme par exemple un départ sur deux voit sa ferme partir à l'agrandissement. Il faut savoir qu'il y a un gros risque, c'est que dans les 10 prochaines années, il y a la moitié du coup des chefs d'exploitation agricole qui vont être en départ à la retraite. Et du coup, il faut vraiment mettre en place des politiques d'installation et de transmission à la hauteur des enjeux, pour que d'ici 2050, c'est ce que la conf voudrait et le milieu paysan, faudrait installer 1 million de paysans et de paysannes partout en France pour assurer la reprise de ces fermes.
En fait, ce qui serait trop bien, c'est qu'il y ait plein de petits paysans partout et qu'ils soient autonomes. Comme ça, ça pourrait du coup pallier à la demande de produits alimentaires. Et voilà, et continuer dans la préservation de l'environnement, en adaptant nos pratiques agricoles.
Et je voulais revenir le fait que les fermes partent à l'agrandissement. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que déjà il y a une pression envers l'animal et non issus du milieu agricole, une pression qui est faite des agriculteurs qui exercent déjà. Il y a aussi le prix des fermes qui est parfois dans certaines régions mais exorbitant, et il y a des fermes qui peuvent se reprendre que si on est fils de paysan, c'est trop compliqué sinon.
Bah justement, c'est pour ça que faut que les politiques agricoles elles jouent leur rôle sur ça, d'aider les non-issus du milieu agricole à s'installer en ayant des fermes moins chères qui subventionnent plus l'installation, et que le foncier soit aussi moins cher que maintenant, quoi, qui augmente, les prix du foncier augmentent et sont plus vraiment accessible pour toutes et tous.
Et puis aussi, il y a un cercle vicieux, parce que plus les fermes, plus les terres partent à l'agrandissement, donc certaines terres ou fermes se fusionnent pour rejoindre d'autres fermes, plus les fermes sont grosses et plus elles sont chères et compliquées à reprendre. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faudrait stopper, quoi.
Bon, bah, merci beaucoup pour cette discussion, c'était très intéressant, et maintenant, place à la musique.
Le tarot à tous les étages. On va
J'espère que la musique vous aura plu. C'était Je veux foutre le bordel de la femme. Pour ceux qui viennent d'arriver, on est sur une émission d'un groupement d'élèves locataires en formation STAV au lycée Angèle Lefrène. On est sur Radio G. L'émission aujourd'hui est basée sur l'agriculture paysanne. Du coup, on va faire un jeu. C'est que je vais vous poser des questions. Il y a 4 questions et vous devrez y répondre. Alors, première question, quels sont les 3 principaux syndicats agricoles en France ?
Moi, je connais un syndicat. Il y a la CONF, on en a parlé. La Confédération paysanne. Je sais qu'il y a le gros syndicat, la FNSEA. Vous y connaissez un peu ? Je sais pas.
Et il y a aussi la coordination rurale.
Oui, c'est ça. La FNSEA, elle est aussi ralliée à la JA, les jeunes agriculteurs. Et en tout, la FNSEA, elle comporte 212 000 adhérents plus les 50 000 de la JA. La coordination rurale, elle comporte 15 000 adhérents et la Confédération paysanne, 10 000. Alors, une question, qu'est-ce que la FNSEA ?
Bah, je sais que c'est le syndicat principal. Après, je sais pas vous.
Et les lettres de la FNSEA, je crois que c'est la Fédération nationale des exploitations agricoles ou des exploitants agricoles.
Des syndicats ?
C'est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. C'est le syndicat majoritaire. Elle se dit porte-parole des agriculteurs. Elle promet l'installation des jeunes agriculteurs ou agricultrices. Elle veut vulgariser le progrès technique, économique et social, ainsi qu'une augmentation de la valeur ajoutée produite par les fermes. Et qu'est-ce que la coordination rurale ?
C'est le... eux, ils veulent une agriculture de peut-être de plus petite taille, mais rester un peu dans l'ancien temps en continuant de mettre des intrants de pesticides et autres.
La coordination rurale est un syndicat agricole français. Ce syndicat représente des agriculteurs de tout type de production, agriculteurs biologiques ou conventionnels, en tout cas, c'est ce qu'ils revendiquent. Elle revendique une politique migratoire plus souple. Ce syndicat est décrit comme niant le réchauffement climatique, elle combat les mesures écologiques ainsi que la mondialisation. Et dernière question, est-ce que c'est déjà arrivé que ces 3 syndicats font front ensemble ?
Moi je pense pas parce que je trouve que il y a quand même une grosse différence entre la Confédération paysanne et les autres syndicats. Peut-être que la FNSEA et la coordination rurale se sont déjà ralliés, mais je pense pas que la Confédération paysanne soit ralliée avec la FNSEA parce que elle n'est pas tellement d'accord politiquement avec eux.
Ouais, puis ils ont pas du tout les mêmes valeurs. Enfin, moi, je sais pas, c'est ce que je pense, mais à mon avis, ils sont un peu dans la contradiction entre syndicats, je sais pas.
Bah, c'est très peu arrivé, mais c'est déjà arrivé une seule fois. Même si ces syndicats sont différents et ont des idéologies différentes, elles peuvent faire front tous ensemble. Ça arrivait notamment contre les attaques des véganes qui intensifiaient leur campagne de culpabilisation des consommateurs et de stigmatisation des éleveurs. Alors que ces agriculteurs, ils étaient juste en face à une situation de crise, ils n'en pouvaient plus de ces attaques répétées sur leur métier.
Ah oui, ok.
Ok, là on l'a vu par exemple avec le mouvement agricole qu'il y a eu au début de l'année. Les 3 syndicats, par exemple, étaient un peu ensemble pour se révolter contre les politiques agricoles et le maintien de l'agriculture française, mais n'étaient pas forcément d'accord sur ce qui était mis en place par le gouvernement. Quoi.
Bah oui, la Confédération paysanne, elle voulait qu'il y ait plus de normes environnementales et la FNSEA, plus la coordination rurale, voulait qu'il y ait moins de contraintes par rapport aux lois environnementales. Donc elles ont lutté parallèlement un petit peu, c'était pas non plus les mêmes idées.
Oui, mais heureusement il y a un combat qui les lie, c'est vivre décemment de leur métier. Donc c'est peut-être une piste pour réunir ces syndicats.
Ouais, et puis aussi l'installation des jeunes agriculteurs aussi.
Ouais.
Ils sont tous d'accord là-dessus. Fin...
Bon bah c'était le petit jeu de l'émission. Là, on va passer au débat qui portera sur la problématique « Est-ce que l'agriculture paysanne peut nourrir tout le monde ?»
Moi, par rapport à cette question, je voulais commencer par recontextualiser les choses. Je voulais dire que déjà, la PAC, la Politique Agricole Commune, c'est une instance qui a été créée en 1962. Son objectif, c'était de rendre à la France une souveraineté alimentaire, donc rendre une autonomie, quoi, par rapport à l'alimentation. Donc, par quels moyens elle a favorisé et soutenu l'arrivée de la mécanisation, des tracteurs. Puis un peu plus tard, il y a eu aussi, elle a soutenu l'arrivée des produits de synthèse, donc les phytosanitaires, les engrais. Donc, dans les années 80, l'autonomie de l'alimentaire de la France, elle est à peu près atteinte grâce du coup à ces éléments. Et sauf que les politiques à cette époque décident de continuer encore la PAC, la politique agricole commune, mais en changeant d'objectif. L'objectif maintenant pour la politique agricole commune, c'est de continuer à produire pour exporter donc dans toute l'Europe, mais dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, les agriculteurs qui se disent productivistes, ils utilisent cet argument nourrir le monde. C'est lié à cette histoire d'export vers les autres pays du monde. Et donc, ils justifient l'utilisation de produits phytosanitaires et d'intrants parce qu'ils disent qu'ils nourrissent le monde. Donc, par rapport à la problématique, nourrir le monde.
Oui, je pense pas que l'objectif, hein, c'est de nourrir le monde avec la PAC. Ça peut pas marcher parce que la PAC, justement, elle vise à ce que plus t'es de terres agricoles, plus t'as d'aides et de subventions. Et du coup, c'est plus un modèle viable parce que du coup, ça pousse les fermes à partir à l'agrandissement parce que du coup, elles vont avoir encore plus d'aides. Et l'idée, ce serait que les fermes, elles vivent de leur métier et aussi que la PAC les aide à planter des arbres, à préserver les haies et à garder, par exemple, des zones humides, tout ça. Donc, c'est plus un bon modèle de PAC actuel.
Ouais, je suis d'accord, mais on peut pas le nier, il y a quand même des régions, grâce à cette PAC, qui quand même produisent en quantité. Ça, on peut pas le nier. Bon, après, est-ce que c'est justifiable ou pas ? Elles produisent en quantité et elles exportent, notamment des céréales, et elles exportent dans le monde entier.
Ouais, mais du coup, je pense qu'il faudrait arrêter qu'elles exportent et que justement la France devienne autonome en arrêtant tous les traités de libre-échange. Et les traités de libre-échange, c'est les échanges entre les différents pays en termes d'agriculture. Du coup, comme il y a des traités de libre-échange avec le Brésil, avec le soja brésilien, avec la Nouvelle-Zélande, avec l'agneau. Et ces traités de libre-échange, faudrait les arrêter parce que ils poussent à produire à vendre son produit peu coûteux pour être en concurrence avec les autres pays. Du coup, faut arrêter cette concurrence qui est déloyale et soutenir l'agriculture française.
D'autant plus que l'agriculture paysanne prône du coup une production locale et se veut autonome, puisque là, on l'a vu, là, en ce moment, on est en pleine crise, notamment à cause de la guerre en Ukraine, où les agriculteurs étaient dépendants notamment du blé. Et ils étaient du coup très pénalisés, sauf qu'en agriculture paysanne, les paysans et les paysannes essaient d'être plus indépendants, donc de produire leur propre production, par exemple de blé s'ils en ont besoin. Et donc du coup, ils sont moins impactés par les crises, que ce soit climatiques ou sociales, ou les guerres.
Oui, et puis je voulais revenir sur ce que disait Titouan. En fait, la France, elle avait obtenu cette autonomie alimentaire, et puis au final, elle l'a un petit peu reperdue parce que en exportant, elle est rentrée sur le marché mondial, et puis elle a aussi aujourd'hui, elle importe. Par exemple, tu parlais de l'agneau de Nouvelle-Zélande, et au final, cet agneau, il est encore produit en France, mais je sais pas, peut-être pas assez pour être complètement autonome en agneau. Et au final, il y a une espèce de dérèglement où on produit pas tout en France. C'est qu'on produit une partie qu'on exporte et une partie qu'on produit pas et qu'on importe. Donc il y a une espèce de contradiction que je trouve pas très logique.
Mais en fait, c'est tout le modèle qui est à revoir. Et il y a plein de choses à mettre en place, notamment avec les syndicats agricoles et les politiques agricoles. Et comme par exemple la sécurité sociale de l'alimentation pour assurer la souveraineté alimentaire. En instaurant des chèques alimentaires qu'on aurait par exemple une fois par mois pour permettre d'avoir une alimentation dite paysanne à toutes et à tous pour que tout le monde puisse bien manger et que ce soit pas une agriculture nuisible pour l'environnement en fait. Et du coup avec cette sécu sociale de l'alimentation, ça permettrait de rétablir une souveraineté alimentaire pour le pays. Et aussi ce serait aux vendeurs par exemple de pesticides de participer à l'effort de réduction de la transition écologique, comme par exemple en rémunérant les agriculteurs qui font des efforts importants de réduction et en soutenant par exemple les investissements de matériel qui permet de réduire ces pesticides.
Oui, parce que faut savoir que bon, on va pas se le cacher, aujourd'hui l'agriculture paysanne elle est très à la marge, donc elle est développée. Et donc il y a encore une marche énorme à franchir pour qu'elle se développe à l'échelle nationale et même qu'elle se développe partout dans le monde. Aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle, dite conventionnelle, elle a une place hyper importante. Et puis aussi, il y a ce que tu disais, la sécurité sociale de l'alimentation, elle répond un peu à ce problème de les productions qui viennent de l'agriculture paysanne. Des fois, elles sont chères, donc peut-être pas forcément accessibles à tous. Et du coup, c'est ce système de chèque proposé par la sécurité sociale de l'alimentation, ça permet de faire face à ce problème.
Et oui, et aussi faut justement installer beaucoup plus de paysannes et de paysans pour avoir des petites fermes à taille humaine qui s'assurent un bon revenu à toutes et tous pour justement instaurer cette souveraineté. Et aussi parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs en France qui exportent aussi dans le monde, ou par exemple qui produisent de la nourriture comme du maïs et du blé pour nourrir l'agriculture conventionnelle voire intensive, comme par exemple les porcheries de Bretagne ou les poulaillers intensifs. Faudrait revoir aussi ce mode de production, parce que du maïs qui est exporté à l'étranger, je vois pas l'intérêt de le produire en France, et ça n'aide pas du tout la France à devenir autonome.
Et je voulais rebondir sur la formulation « l'agriculture paysanne peut-elle nourrir le monde ?» Je pense que oui, elle peut nourrir le monde, mais pas de la manière dont l'agriculture conventionnelle aujourd'hui nourrit le monde, parce qu'aujourd'hui les productions sont faites à différents endroits, et c'est les pays du Nord produisent beaucoup et pas que les pays du Nord, mais certains pays produisent beaucoup pour exporter vers les autres pays qui produisent moins. Et je pense que l'agriculture paysanne, elle pourrait nourrir le monde, mais pas de cette manière. Elle pourrait nourrir le monde non en exportant, mais en faisant en sorte que le modèle il se développe partout pour que chaque territoire ait son autonomie alimentaire à une échelle locale. Et que ce ne soit pas certains qui produisent pour d'autres. Qu'on regagne une autonomie, mais partout, pas qu'en France, dans tous les pays.
Bah, merci pour ce débat, c'était très bien. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés sur Radio G. C'était les locataires du lycée Angèle Lefrène. Topette.
Topette. Salut tout le monde, merci.
Salut.
Salut les auditeurs.
RSE Time, avec les locataires, une émission environnement sur Radio G.